Ce qui compte pour un acteur, c'est la personnalité, sa présence.
Franchement, ma chère, c'est le cadet de mes soucis.
Je m'appelle Berlin Noël et j'aime bien les hyènes.
Come on, guy. We'll be sweet with me.
C'est tellement intéressant de voir la réaction des spectateurs à qui on peut déplaire. J'aime bien frôler les catastrophes.
Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
On a tout vu.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
Intitulé de la recherche, héroïne de cinéma, s'affiche alors sur l'écran des listes des top 10. Hélène Ripley, Alien, Béatrix Kiddo, Kill Bill, Catwoman, Batman, Furiosa, Mad Max. Et cette définition, héroïne, femme qui fait preuve d'un grand courage ou féminin singulier. Tiens, tiens, bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à tous et à toutes.
Ces héroïnes de cinéma, elles, n'ont pas de combinaison en latex, de super pouvoirs et n'affrontent pas des monstres, quoique. Bonjour Rebecca Zlotowski.
Bonjour.
Cinéaste, Belle Épine, Grand Central, Planétarium, une fille facile, des femmes en première ligne et sans les clichés attachés au genre. Nous vous avons demandé de dresser la liste de vos héroïnes de cinéma. Chaque film, dites-vous, est pour moi l'occasion d'ouvrir une porte sur un univers singulier, plutôt transgressif et plutôt inconnu, et votre liste le prouve. Enfin, et parce qu'il faudra encore se passer des salles obscures, des conseils cinéma pour tenir jusqu'à la réouverture en janvier, oui, le cinéma est essentiel dans nos vies, et pour beaucoup, c'est une nourriture de première nécessité. C'est parti.
C'est fou. À chaque fois que j'entends la corne de bronze d'un bateau, je pense à Marguerite Duras.
Marguerite Duras. Et c'est lequel votre roman préféré de Marguerite Duras?
Je les aime tous.
Non, mais vous en avez bien un que vous préférez, non?
Oh, ça dépend en fait, ça change. Ça dépend des périodes, de comment je me sens.
Mais là, par exemple, ce serait lequel?
C'est délicat comme question, en fait, parce que ça va me faire dire tellement de choses sur moi maintenant, c'est gênant.
Ah oui, mais en même temps, on est entre nous, là.
Ça va, là.
Mais non, mais sérieusement.
Avant, c'était la douleur. Et aujourd'hui, je dirais que c'est l'amant.
Ne pas se fier aux apparences, ça va peut-être être la phrase de cette émission. Une fille facile, votre dernier film, Rebecca Zlotowski, et la première héroïne ce matin, Sophia Zayadehar, on va dire une extrême féminité apparente, mais une fille puissante et la volonté avec ce personnage de travailler sur l'archétype en chassant le cliché. C'est ça, c'était ça l'intention.
Oui, enfin c'était aussi de tout simplement même une déclaration d'amour à une séduction qui opérait chez moi. Mais alors c'est drôle parce qu'en entendant l'extrait, je réalise que c'est évidemment il y a quelque chose autour de sa voix, du velouté de sa voix, de la candeur de sa voix ou de la fausse candeur. Et c'est vrai que chez toutes les femmes actrice, héroïne de cinéma que j'ai en tête, que j'ai choisi de manière quasiment psychanalytiquement, voilà, en essayant de relire après ce que ça donnait, il se trouve que la voix et la spécificité d'une voix à part, d'une prosodie à part, est importante. Et là, en Zayadehar, j'ai vraiment reconnu quelqu'un qui parlait comme un personnage de Romère, alors que l'apparence de bimbo ultra sexuée, connue pour un scandale de mœurs en plus en France, contredisait pleinement ce que c'était.
Pour ouvrir, c'est quoi une héroïne de cinéma alors?
Vous parliez, j'adore que vous ayez attaqué sur le courage, parce qu'effectivement d'un point de vue, alors sans revenir à Dubrovski, mais c'est vraiment, on parle de le courage, la bravoure, donc ça c'est vraiment le héros, mais c'est aussi une protagoniste, et malheureusement il y a eu et peu de femmes protagonistes, et peu de femmes courageuses, héroïnes, braves, au sens où on peut l'associer au masculin, même s'il y a souvent des mères courage, des femmes endurantes, j'en ai aussi certaines dans la liste.
Oui.
Mais je dirais que c'est celle qui peut cumuler le fait d'être et la protagoniste, et quelqu'un qui nous oblige par sa valeur morale.
Sophia Zaya est peut-être bien la version contemporaine d'une autre héroïne, une jeune femme très belle, italienne, issue du peuple, amoureuse de la variété, qui cherche sa voix dans une société où la femme est avant tout un objet sexuel. C'est ce film magnifique signé Antonio Pietrangeli avec Stefania Sandrelli. C'est Je la connaissais bien, 1965. C'est un parcours d'humiliation successive, ce film.
Oh là là, c'est vrai que bon, la transition est trouvée avec Zaya Dare. Je me rends compte, en aimant, je la connaissais bien.
Bah,
alors
bien
d'abord,
sûr, on voit plus votre film. Il y a un miroir incroyable.
On ne devrait pas citer en fait ces références parce qu'après on se rend compte qu'on est complètement. On a plagié.
C'est une belle référence.
Non, mais il y a évidemment un trajet de starlette déchue. C'est un rise and fall en fait, mais un rise épouvantablement. Ridiculisé à un moment, donc c'est cette starlette candide ingénue, Stefania Sandrelli qui par ailleurs se retrouve après dans un certain cinéma italien dès qu'elle a... Alors elle est à ce moment-là de sa vie où c'est...
Elle a 18 ans à l'époque.
Elle est toute jeune. Ouais. C'est un visage qui est vraiment un visage de l'innocence absolue que le metteur en scène va, mais avec beaucoup de loyauté, hein. C'est pas du tout pour la piéger. Il va accabler d'un trajet en fait d'une recherche de reconnaissance en fait dans le milieu de la pub du cinéma. Dans le miroir, enfin... Dans le miroir aux vanités, dans le miroir aux alouettes, et qu'il y a une sorte de Mulholland Drive, quoi. Enfin, elle va arriver comme
exactement.
Ça, la tête pleine d'étoiles à Cinecittà, et puis ridiculisée, cauchemardesque. Mais il le fait aussi avec son impresario, dans une scène spectaculaire où c'est un vrai numéro de claquette, et j'encourage vraiment les auditeurs à aller
c'est
voir
Tony
ce film.
C'est Tony Haddi.
Et je voulais juste dire que c'était un film que j'avais pu connaître grâce au travail de Ronald Chama, qui, avec les rééditions de Carlotta.
Ouais.
Ah, c'est incroyable.
Alors, il y a une scène qui est extraordinaire. Elle a un amant qui est un écrivain, un intellectuel. Et en fait, il écrit sur une, soi-disant, une autre fille, et il la caractérise. Et tout son personnage est là-dedans, il dit. Toujours consentante, ne désire rien, n'envie personne, n'est curieuse de rien, les affronts ne la touchent pas, aucune morale, très important, ça, pas même celle de l'argent, car ce n'est pas une putain, a besoin de rencontres avec n'importe qui, sauf avec elle-même. C'est magnifique, ça, non?
Que c'est dur. En fait, j'ai l'impression que ce sont des femmes. Ce qui est beau, donc Pietrangeli, il est spécialiste aussi de cette espèce de tension aimante, hein, charitable qu'il a, je pense, envers les femmes de sa société. Oui. Parce que quand il fait Adoua et ses compagnes avec Simone Signoret, c'est aussi l'histoire de femmes qui ensuite s'affranchissent de la prostitution pour ouvrir un commerce et qui vont se retrouver ensuite sous la coupe d'un homme parce qu'en fait, ben voilà, tragiquement, c'est comme un métal qu'on chauffe et qui reprend sa forme, la société comme ça. Donc il le regarde et j'adore. C'est comme des femmes qui se sont fait mettre la tête dans la cuvette à un moment, et puis après il y aura d'autres héroïnes, vous verrez qu'elles se sont relevées.
Elle a presque faim, elle est dans sa Fiat 500 dans Rome, elle écoute une chanson. Alors dans le film, c'est Becco en italien. Mais là on va passer Becco en français parce que les paroles sont super importantes par rapport au film.
Toi, dans ce mélange de perdu, tu te gaspillais, toi. J'aurais voulu tendre les mains vers toi. Moi, j'aurais voulu tout expliquer, il m'en empêchait. Tous ces gens autour de toi riaient, cet imbécile parlait, et toi aussi tu riais, j'en aurais crié.
C'est beau, hein?
J'adore, vous pouvez mettre, chers auditeurs, bon samedi matin.
Ouais,
non,
ouais,
je peux mettre ça très très fort.
Allez voir, je la connaissais bien, et pour cette scène magnifique.
Et on dit juste justement que c'est, on peut le voir en VOD sur Orange et Université.com.
Oui,
voilà,
ouais.
C'est important de le dire. Parce
c'est comme ça que
je
l'ai récupéré
italienne.
D'ailleurs. D'accord. Merci beaucoup, il n'y avait pas de DVD.
C'est une pépite italienne, vraiment.
Très compliqué. Une autre jeune fille, c'est une sorte de donjouanisme, celle-là, c'est la collectionneuse d'Éric Rohmer. Ça pourrait être une héritière des deux autres aussi. Bah, hein. Pas une héritière, une ascendante.
La réplique de cet écrivain, il y a une espèce de redite. J'avais oublié cette scène dans laquelle l'écrivain dont vous parlez, du film de Pietrangeli, accable l'héroïne.
Oui.
C'est pareil entre Pomerol et Aïdé Politov dans La collectionneuse.
Alors, par exemple, alors, racontez-nous donc ces deux hommes qui rencontrent cette... Ça se passe dans une maison, à Saint-
C'est l'été pré-dramatuel, une fille qu'on apparaît, je sais pas, une fille de scène, c'est-à-dire, on la découvre d'abord au début du film, on pousse une porte, elle est en train de faire l'amour, quelques gémissements, il referme gentiment, excusez-moi madame, et tout ça dans une espèce de climat, en fait, de ces grandes maisons de vendeurs d'art contemporain, d'antiquaires, on ne sait pas, mais il y a une, comme souvent en plus chez Romain, il y a l'idée de la nécessité matérielle et pas au cœur du film, et l'été.
C'est moi qu'on puisse dire.
Et l'été, mais je dis ça parce
était
que...
hébergée dans cette maison, hein, pour le film.
C'est vrai,
oui, bien sûr, absolument.
Vrai.
Oui. Et la femme qui fait la cuisine, qui est une italienne, faisait la cuisine à toute l'équipe du film.
C'est formidable.
Oui, tous les jours de la soupe.
La soupe italienne. On va écouter juste un extrait de ces deux hommes qui parlent d'elle.
J'ai couché avec toi la première seconde où je t'ai vu.
Tu l'as vu où la première fois?
Elle dansait. Et toi ?
Elle faisait l'amour. Elle faisait l'amour, au sens physique du terme, avec un type sur un lit. J'avais poussé la porte, je croyais que la pièce était vide.
Tu vois donc, tu as couché avec elle. Tous les hommes ont couché avec elle. La salope. Or, cela dit, le collectionneur, c'est vraiment un pauvre type qui n'a en tête que l'additionnel. Jamais il n'arrivera à se satisfaire d'un seul objet. Il lui faudra toujours chercher l'objet impact parmi toute une série. Il lui faudra toujours avoir un ensemble. Nous sommes bien loin de la pureté, là. Ce qui est important, c'est l'élimination. Enfin, le gommage. L'idée de collection est contre l'idée de pureté.
La collectionneuse Rebecca Zlotowsky, l'érotisme est surtout cérébral dans le film.
Ça dépend pas du tout, vous plaisantez, le prologue, oui, je pense prologue a traumatisé une génération de baby-boomers.
Hein. Mais non.
Ah bien sûr, le prologue, c'est une fétichisation du corps d'Aïdé Politov, oui. Donc qui est cette jeune, qui est vraiment, qui a un visage, il faut quand même dire que par rapport, disons, aux filles spectaculaires, Sandrelli ou Zaya Dern dont on a parlé, Aïdé Politov, elle a un physique très différent, qui a un physique, en fait, qui vraiment... Ouais, et puis qui répond à l'époque, en fait, parce que c'est un peu la proposition de Romère à la libération sexuelle, à la révolution sexuelle, et puis elle le fait avec beaucoup d'intelligence. Évidemment, ça souvent cérébral, souvent des enjeux de langue, mais pas que. Je trouve que c'est vraiment son film le plus sensuel, en tous les cas, à mon sens, et le plus gorgé de lumière, de soleil. Et on commence par un blason au sens poétique du terme, c'est-à-dire il a quand même réussi à la rendre troublante et impressionnante pour tout un tas d'hommes et de femmes, alors qu'il a filmé l'arrière de ses genoux, la clavicule. Donc il y a vraiment une idée, l'endroit où les veines pulsent dans son corps. Ça, c'est le début. Très franchement, un petit peu comme au début d'Esther Kahn de Desplechin, qui est un film vraiment... J'ai failli citer Esther Kahn, c'est ma Phoenix dedans, c'est un film qui m'est très cher. Et c'est une manière de montrer le personnage, comme on montrait la bête, et pour après rentrer un peu dans la défense et illustration de ce qu'elle est.
Alors, il y en a qui ont comme référence de films sur l'adolescence, La Boum, et puis il y en a d'autres, il y en a un beaucoup plus intéressant à mes yeux, c'est...
On ne dit pas de mal de La Boum sur ma présence, sinon je me lève.
D'accord.
J'adore ça.
Mais vous avez choisi Diabolomante, Diane Curis, 1977, Éléonore Clarwen, septembre 63, rentrée des classes, Anne, 13 ans, sa sœur Frédérique, 15 ans, parents séparés, une mère dépassée, un père maladroit, les premiers flirts, Anne me met des collants en cachette, collectionne les mauvaises notes, Fred découvre la politique et les garçons. En fait, c'est une radioscopie passionnante de l'adolescente, de l'adolescence.
Oui, en plus,
malaise,
avec les deux sœurs.
Oui.
Bah, disons qu'il y a vraiment, donc il y a deux sœurs, parce qu'on oublie souvent, on a vraiment le visage d'Eleanor Clarwen, mais il y a aussi Odile Michel.
Qui est très belle.
Qui est devenue Odile Michel, je lance un appel.
Et si, bah, elle fait encore quelques apparitions, on a vu ça avec Laurent,
Bah, je suis absolument désolée de les avoir ratées. Ouais. Je crois que j'avais vu en plus en couverture, peut-être que je devrais pas dire, parce que j'avais vu un SAS ou j'avais vu en fait des photos d'Odile Michel, je me disais, mais c'est incroyable. C'est vraiment, elle est clairement, c'est la grande sœur, elle est clairement pressée de cocher toutes les cases dans l'année.
Oui.
Sortir avec un type plus âgé, fumer des pétards. Militer à l'extrême gauche, embrasser une jeune amie.
Bon, très important, avec des tags OASSS, etc. Et il y a tout à peu près dans ce film.
Il y a tout, y compris, je crois, quelque chose de très générationnel que moi je connais pas, mais qui, je sais, évidemment, c'est devenu la norme pour beaucoup, et qui sera l'un des grands sujets de Diane Curis, c'est le divorce des parents.
Oui.
C'est-à-dire qu'en vérité, c'est une espèce de... Il y a une émotion très très forte pour moi dans Diabolomante, indépendamment du fait que je sais exactement à quel moment je me mets à pleurer, je sais exactement à quel moment l'émotion, la baffe que se prend Éléonore Clarwen quand elle a ses règles la première fois, sont comme des moments que je n'aurais pas vécu, et qui m'intéressent, me plaisent, mais c'est aussi, il y a peu de films qui vous montrent en même temps l'excitation de vivre de grandes choses pour la première fois et la mélancolie de savoir qu'on les vivra plus jamais.
Nicolas Gourrieff nous disait qu'il le voyait comme un 400 coups au féminin.
Oui. Bon, c'est
une vision que vous partagez.
Oui, je peux partager ça parce que d'abord même le quartier.
Arrêtez de la fin en plus.
Oui.
Bon,
le quartier d'ailleurs elle-même parce que je vous ai parlé d'un passage qui me plaisait qui était un poème de il y a ce moment en fait de voice-over qui est assez surprenant alors que le film est assez naturaliste, réaliste et ce moment-là en fait intervient et là c'est vrai que on est sur le pont au-dessus du cimetière de Montmartre
et c'est la patrie de Truffaut.
Totalement la patrie de Truffaut.
Et ben c'est pas celui-là qu'on a choisi, on va vous faire pleurer malheureusement, c'est la scène de l'anniversaire de la mère.
Louis-Cécile, c'est moi. Je sors de chez le médecin. Non, je suis dans un café. Mais il dit que c'est le psoriasis. Le psoriasis. Mais non, le psoriasis, c'est un champignon. Mais il dit que c'est pratiquement incurable. Je vais garder ça toute ma vie. Mais non. Mais non, ça va pas s'arranger. Écoute. Non, mais j'en peux plus, je suis au bout du rouleau, je suis fatiguée. Non, je suis tout prêt, je rentre et puis on peut pas parler là. Je te rappelle de chez moi. Non, ne t'inquiète pas, t'es gentil. Je t'embrasse, à tout de suite. Merci, au revoir.
Bon anniversaire. Bon anniversaire, maman. Zimartosis, get dance
de chemin oi vivi bitte wenn sie fällt.
Le deuxième film de cette liste réalisé par une femme, c'est Marie-Claude Treilloux, c'est Simone Barbès ou La Vertu. Dans le hall d'un cinéma porno, deux ouvreuses font les 100 pas, accompagnent les spectateurs, discutent avec les habitués.
Quelle transition !
Ouais, ouais. Sur fond sonore des films porno projetés extraits.
Il est bon celui-là.
Ça dépend des goûts. Vous avez une spécialité?
Oh, vous savez, vous avez l'habitude.
Quoi, l'aventure, les couleurs, le mouvement, l'action échevelée?
Écoutez.
Parce qu'ici, vous savez, c'est pas autant n'emporte le vent, hein. Là-haut.
5 centimes. Manque pas d'air.
Toujours les plus vicieux qui les inalogoles.
Simone Barbès ou La Vertu, Marie-Claude Treilloux, 1980. C'est un film assez méconnu, Rebecca Zadowski.
Ben hélas, c'est l'occasion, enfin, ça me fait très plaisir. Ouais. C'est un film que Alice Diop, la réalisatrice Alice Diop m'avait recommandé. Et je l'ai vu vraiment avec l'impression de partager un secret, hélas, trop secret, alors que, donc voilà, Marie-Claude Treilloux, c'est une grande réalisatrice qui a fait partie de cette, on va dire, école, hein, qui était, sous l'égide de la maison de production Diagonale.
Et puis après, elle a travaillé.
Mais c'est vraiment avec Ali, Guiguet, Biette. Voilà. Et qui ont eu plus de visibilité. Bon, ça reste un cinéma confidentiel exigeant. Oui. Mais qui ont eu plus de visibilité alors que j'ignorais Treilloux. Et ce film, avec ce personnage incarné par Ingrid Bourgoin, qui est une actrice extraordinaire au physique, absolument. Je sais pas comment vous dire à quel point la fin de la décennie, le début de l'autre arrive. C'est vraiment un effet de fin de l'année, des années disco et du début d'une génération un peu plus entraînée peut-être par la drogue, l'héroïne. C'est une déambulation, c'est une nuit blanche, une dérive. Toute la nuit, ça commence donc de manière très très drôle avec une manière de définir un personnage par une réplique, toujours avec élégance, bien que le sujet soit et que les décors soient des décors parfois graveleux. Ouais. Moi, je trouve pas glauque, mais je peux comprendre. Et voilà, elle déambule. Et c'est un grand film sur le dépit amoureux. Et ça me touchait beaucoup.
Et à un moment, l'une dit à l'autre, ça te sert à quoi d'être si intelligente? Et j'ai envie de vous poser la question, Rebecca Zadowski.
Oh là
ça
là.
Vous sert à quoi? Est-ce que surtout, est-ce que ça vous dessert parfois dans le cinéma?
Bien sûr, je pense que, enfin, vous savez, les excès, tout ce qui est excessif, c'est le mot de Talleyrand, tout ce qui est excessif, et voilà. Donc, alors moi, je me vis pas comme la personne la plus intelligente que je connaisse, ni la personne la plus, sensible non plus, mais ceux qui ont un défaut, qui ont un excès de sensibilité, autant qu'un excès d'analyse, d'assèchement du récit par l'analyse ou le recul, ça peut provoquer effectivement des dégâts. Mais l'idéal, je trouve que ça peut aider. Je trouve que quand on est cinéaste, les mots, le lexique, la connaissance, l'idée de pouvoir transmettre, discuter avec les gens, c'est pas des freins, c'est pas des entraves, et qu'il y a une certaine dimension un peu trop romantique de la création, selon laquelle il y aurait exclusivement quelque chose qui viendrait du cœur, alors que moi je crois qu'on peut faire triompher d'autres émotions.
Ben voilà, c'est une sacrée réponse. Une femme dévastée par la passion pour une autre femme. Un couteau dans le cœur de Yann Gonzalez.
Donc c'est fini sur Treilloux.
Oui.
Une déclaration d'amour quand même à ce film. Pardon. Alors. Une déclaration d'amour à ce film, une déclaration d'amour au trajet, sachant que et puis ça fait sens parce que vous verrez, je pense que Yann Gonzalez dont on va parler dans Un couteau dans le cœur.
Oui.
Il a vu Trélu. Et d'ailleurs, Ingrid Bourgoin, l'héroïne, se retrouve dans une scène de bar. Elle se retrouve dans une scène de bar du film de Yann Gonzalez. Je m'en suis rendu compte en préparant l'émission. Donc c'est vraiment un hommage direct et qu'elle en soit remerciée, quoi.
D'ailleurs, il est disponible sur Internet, ce film, Simone Barbès. Moi, je l'ai trouvé très facilement.
Oui,
très
sur YouTube. Facilement. Moi aussi, je l'ai trouvé
sur YouTube.
Pardon, Marie-Claude Trémon, on l'a trouvé sans vous payer le moindre droit.
Ben oui, mais c'est vrai que c'est génial. Beaucoup pourront le voir.
Il y a des aficionados. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, c'est des films autour desquels se crée une confrérie, une consoeurie secrète.
Lui, en revanche, existe en DVD et en Blu-ray. C'est Un couteau dans le cœur, donc de Yann Gonzalez.
Ouais, magnifique.
Vanessa Paradis, Kate Morgan, Nicolas Maury, donc une femme amoureuse, une femme amoureuse d'une autre femme, c'est Vanessa Paradis qui est productrice de films porno.
Décidément,
L'autre femme est monteuse de ces films. On écoute cette déclaration d'amour.
Je suis encore désolée pour tout à l'heure, moi aussi ça m'a remué. Mais...
Il n'y a rien qui a changé, Louis. Je t'aime pareil depuis 10 ans, moi. Je pensais pas que c'était possible d'aimer autant, aussi longtemps. C'est cet amour qui est trop pour moi. Trop puissant, trop peur de perdre, chaque jour. Ça me rend dingue, tu comprends? On peut pas refuser un amour comme celui-là, tu peux pas. C'est criminel. Tu dois m'aimer. Aime-moi, 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 putain! Arrête. Tiens-moi, Louis. Ça, c'est à moi. C'est à moi. À moi, à moi, à moi. À moi.
Je t'en prie.
Voilà ce qui est intéressant, Rebecca Zlotowsky, c'est bien sûr cette déclaration folle à une autre femme. C'est là où c'est intéressant, c'est dans les rapports.
Alors c'est drôle parce qu'en l'entendant, donc moi j'ai une passion pour Vanessa Paradis depuis très longtemps, et aussi depuis, c'est comme si l'extrait, et puis pour Kate Moran, c'est pour ça que vraiment j'ai choisi le film, et c'est comme si tout le bruit et la fureur, pour reprendre le titre d'un très beau film de Jean-Claude Brissot, qui a été mon prof de cinéma à la FEMIS, qui était un cinéaste pour lequel j'avais beaucoup d'amitié. C'est comme si tout le bruit et la fureur dont elle a été le réceptacle au moment de Noces Blanches, là elle en devenait à présent, voilà, le temps avait passé et c'était elle, Kremer, c'était elle qui pouvait pas mal. Et je trouve que autant le film dont on parlait avant, oui, Simone Barbès, c'est vraiment sur le dépit amoureux, et là c'est sur la fin de l'amour et on l'accepte pas, on le tolère pas. Il y a chez Yann Gonzalez, qui est un cinéaste que je trouve dans la dimension plastique de son cinéma, dans la poésie, dans la sincérité de son fétichisme, y compris dans ce qu'il peut avoir
assumé complètement,
totalement assumé, dans les trajets, en fait, les citations, je ressens une fraternité très grande et une émotion très grande à voir tous ces films, y compris les formes brèves. Et Un couteau dans le cœur, c'était pour moi un très grand film avec l'une de ses muses, Kate Moran, et le trajet de Vanessa Paradis en funambule dedans. Ça m'a énormément plu, je repense beaucoup à ce film.
Et vous avez engagé sa fille d'ailleurs dans un
absolument
film, voilà.
Absolument. Oui. Lily Rose Depp.
Lily Rose Depp.
Planétarium. Ouais. Très beau film.
Abel Ferrara, on va d'un film à l'autre.
Ah, on navigue.
Comme un train dans la nuit.
On navigue d'un cinéma porno à l'autre.
Abel, pas porno, là, cette fois.
Non, là, c'est pour qui.
Abel Ferrara, qui est souvent associé à des films menés par des hommes, Bad Lieutenant, King of New York, pour les plus connus. Et pourtant, le cinéaste new-yorkais a réalisé des sacrés portraits de femmes dès son deuxième film, qui s'appelait L'Ange de la Vengeance, MS-45 en anglais, où c'est une femme qui se vengeait des hommes déguisée en religieuse.
Revenge movie total.
Ouais, China Girl, Snake Eyes, Madonna, donc, et The Blackout, Mary, avec Juliette Binoche. Et en 2001, donc, Christmas, Our Christmas, ça veut dire notre Noël. C'est un couple de riches immigrés, trafiquants de drogue à Noël. Lui sera kidnappé. Elle devra trouver l'argent de la rançon, mais elle, c'est Joed Matteo, par parenthèse, une des héroïnes des Sopranos. Oui. D'ailleurs, qui était déjà femme de mafieux, et c'est elle d'abord qui vous fascine.
Ouais. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que c'est quand même un couple. Quand on dit à l'auditeur un couple de dealers, non, c'est un couple bien sous tout rapport, catholique fervent, bien habillé avec un petit côté un peu cool, un peu R&B, parce qu'ils ont comme ça le cheveu tiré.
Qui passe le film à chercher une poupée pour leur fille, Girl.
Parce que c'est
incroyable.
C'est Party Girl, donc hommage quand même au sublime film de Maria Mesh, Kelly Samuel Taïs et Claire Berger, qu'on salue.
Je sais pas s'il y a pensé, mais bon.
J'ai pas
dit celui-là, mais bon, enfin bref.
Peut-être au Nicolas.
Oui. Peut-être aussi, oui.
Mais c'est vrai que c'est des bons parents. Ils sont vraiment, ça commence par un petit spectacle à l'école. Donc bon, on connaît ce truc, on connaît ce clash visuel qui est le récit d'imposture à l'intérieur de sa propre famille avec les abuelitas qui sont un peu de mèche, mais qui sont en même temps de formidables grand-mères avec cette petite fille qui a l'air d'être.
Elles sont terribles.
Mais elles sont démontes, elles ont cette manière de. Et Dread Matteo au cœur de ça. Donc pour ceux qui, c'est très surprenant en fait que j'ai complètement flashé sur elle au moment de la sortie de ce film. Je crois qu'elle possédait cette part en fait de ce que les Américains appellent de swag, c'est-à-dire de coolitude. Absolue, elle a cette petite ride du lion, elle est fausse blonde, vraiment violemment. Je l'imaginais, c'est drôle, j'ai revu le film, je pensais qu'elle avait des faux ongles qui m'impressionnaient. Elle les a pas, mais c'est tout comme. Elle est tout le temps moulée comme ça, c'est une bombe absolue. Oui. Et je crois qu'il y a dans sa manière à nouveau une voix très veloutée, très particulière. Et Dread Matteo, c'est le second couteau d'Hollywood dont on se demande pourquoi on l'a pas vu une fois plus.
On va l'écouter.
What the fuck is going on up there? They're moving a half a brick a week, this ain't even a quarter, this ain't even cover cab fare. Tecato Moreno jodido. That nigger fuck, everybody knows he's using.
He wasn't a nigger when he was making us money.
But he ain't making us money now. Look at this shit. Morenos, Felipe. Morenos, Felipe.
Elle le domine.
Bien sûr, là il y a vraiment l'idée. Elle le domine et en même temps c'est une relation de couple qui est assez. Ça se termine par lui. C'est un chanteur, je pense, cet acteur qui est un acteur qui n'aura pas fait une grande carrière, qui est pas mémorable. Mais je pense que ça devait être un chanteur de variété. C'est vraiment une espèce. Je crois que tout le film se course contre la montre. Cette course contre la montre de Dread Matteo pour retrouver de l'argent devant un Ice-T. On a l'impression qu'elle est quand même 10 fois plus violente et méchante que lui. Je veux dire, elle le dose complètement. Moi j'ai pas peur d'Ice-T mais d'elle dans le film. Et c'est un peu une structure à la Model Shop de demi. On a une journée pour trouver de l'argent. Bon, voilà, ça on connaît. Mais au fond, pour moi, c'est un prétexte pour montrer une famille tendre et aimante. Ce que l'extrait ne raconte pas, parce que là, ils sont en train de s'engueuler. Mais tout le début, vous allez voir, pour les auditeurs qui voudraient voir le film, il y a 30 minutes d'installation d'une famille new-yorkaise d'origine dominicaine avec quelque chose de très documentaire là-dedans. Le plaisir qu'a Abel Ferrara de filmer cette communauté, la musique, leur tension, leur vie d'expatrié heureux. Et expatrié de l'intérieur, mais quand même culturellement vraiment très dominicain. Et la fin, c'est quand même ce couple qui s'adore, quoi. Donc en vérité, oui, elle le domine un peu. Il y a clairement quelque chose d'un peu phallique en elle, qui est pas sans me plaire, j'imagine.
Elle aime l'argent aussi, hein.
Ah oui, je crois que. Elle aime l'argent comme lui. C'est un couple qui est un couple vénal. De toute façon, c'est un couple de dealers, donc elle l'aime pas plus que lui, sauf que lui, ça se voit moins. Et que chez une femme, ça choque.
Là, on arrive à la. Alors là, la femme fatale, prête à tout, même tuer pour réussir, cupide, perverse, manipule les hommes, aveuglée par ses atouts, une salope égoïste selon son avocat. C'est Linda Fiorentino dans The Last Seduction de John Doe, 1995. Elle dérobe à son mari Clay, trafiquant de drogue, $700,000 en liquide et elle va se servir d'un autre homme pour garder cette somme avec elle. Vous avez choisi une scène démente, c'est elle qui arrive dans un bar à Plougville, et c'est elle qui dit Plougville, et qui se fait aborder. Alors, pour bien entendre, bien comprendre ce qu'elle dit, on a mélangé la VF et la VO.
Faut sucer qui ici pour avoir à boire?
City trash man, you don't think that?
C'est une salope de la ville, arrête. Qu'est-ce que tu peux attendre d'elle?
It's maybe a new set of balls.
Ma paire de couilles, peut-être.
Give me Manhattan.
Ray, a Manhattan for the lady, please.
Manhattan pour la dame, s'il te plaît, d'accord?
Sure, Mike.
Hey, Mike.
Well, if that's the game, I gotta say please.
C'est ça l'astuce. Il fallait dire s'il te plaît.
Ouais, dans ces cas-là, c'est un
You're
plus.
Not from around here.
T'es sûrement pas d'ici?
Fuck off.
Ça va, attire-toi.
$2, please.
Voilà, $2, s'il vous plaît.
Ah, laisse, je paye. Attends.
Thanks, Mike.
Merci, Mike. Merci à toi.
I took care of that for you.
Ça y est, j'ai réglé ça pour toi, voilà.
Thank you can also be very effective.
Ça peut être aussi intéressant de dire merci.
Do you leave?
Tu me laisses?
Please.
Merci.
Well, I haven't finished charming.
Mais j'ai pas fini de te séduire.
I'm sorry. Give me a chance.
T'as commencé?
Laisse-moi essayer.
Go find yourself a nice little cowgirl, make nice little cow babies and leave me alone.
Oh, tu vas être gentil, tu vas aller te chercher une jolie vache, tu vas lui faire de jolis petits veaux et tu me fiches le camp.
I'm hung like a horse. Think about it.
Je suis monté comme un taureau. Je l'ai comme ça.
Let's see.
Voyons ça.
Mr. Ed, let's see.
Et elle est à long voyant ça.
Look, I tried to be nice.
Écoute, j'ai essayé d'être gentil, je vois que c'est quelque chose que...
Non, j'apprécie.
Etc. Etc. À un moment, non, mais c'est dingue. Bon, c'est The Last Seduction, John Doe, il lui dit, je me sens comme un objet sexuel, et elle répond, profites-en.
Mais les dialogues, je vous jure, en fait, c'est vrai, quand je l'ai revu hier. Et j'en avais gardé un souvenir, donc attention, elle lèche les billets de banque, elle crache son chewing-gum par terre, ouais. Elle insulte les hommes sous ses ordres, c'est une fiefée garce. Donc, et voilà, et elle s'en tire bien à la fin. Donc, il y a évidemment cette idée que c'est comme le cinéma, un certain cinéma américain des années 40, qui peut, voilà, c'est ces personnages de films noirs par excellence, la salope du film noir. Mmh. Et il y avait avant c'était les salauds meurent en paix, mais les femmes, elles s'en sortaient jamais super bien. Là, ouais. Là, ça ouais. Va jusqu'au bout quand même. Mais c'est vrai que ce qui m'a surpris, c'est en revoyant, c'est l'humour des dialogues.
Ben oui.
Très, très drôle.
Et à un moment, il lui dit, c'est génial en même temps. Il lui dit, tu me rappelles sans cesse que tu es mieux que moi. En fait, ce qu'elle cherche, cette femme, elle lui dit d'ailleurs d'égal à égal. Oui. Elle n'a pas trouvé son égal masculin.
Non, et puis surtout, alors, il y a quand même, bon, voilà, indépendamment du fait que vous verrez le film, parce que c'est un personnage, vous l'imaginez, vous voyez, tout est à l'avenant. C'est-à-dire qu'à aucun moment le personnage abdique, à aucun moment le personnage se rend compte que c'était une mise à distance de ce qu'elle devait être profondément. Il y a un début de naissance d'intimité. C'est quand même un enjeu sur la naissance de l'intimité oui. entre elle et lui, parce que ce personnage est tellement le type en question, qui est donc ce plouc dont elle se sert dans une espèce de machination. Bon, vous avez compris qu'il va se terminer par il va se faire avoir. C'était un petit peu dit dès le début. Mais il y a cette naissance de l'intimité, et ça, je trouve ça formidable. Après, sur Linda Fiorentino, je me suis demandé ce qu'elle était devenue. Oui. Et je me suis rendu compte que l'actrice elle-même est une actrice, donc évidemment, c'est un personnage de badass absolu. Et pourquoi est-ce qu'elle a disparu au bout d'un moment, alors que vous allez avoir la beauté, elle est transperçante, c'est de la brune immense comme ça. Je crois qu'elle jouait au poker, qu'elle a gagné au poker le fait d'être dans Men in Black le premier. Elle l'a fait, mais elle a refusé le deuxième parce qu'elle trouvait que le personnage était trop utilitaire. Attention, qui évidemment disparaît un peu rapidement. Il y a des scènes de nudité qui avaient été ajoutées dans un autre de ses films au scénario, alors qu'elle avait prévu qu'elle ne désirait pas de scène de nudité. Elle a pas fait ses scènes, donc elle a eu un procès des producteurs et elle a refusé de faire la promotion d'un film dans lequel les producteurs avaient gonflé ses seins sur l'affiche alors qu'elle aimait ses petits seins. Donc j'ai envie de dire,
c'est elle.
Coucou Linda.
Ce qui est intéressant, Fiorentino, ouais. pour conclure sur le film, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas d'explication de trauma originel Absolument. Sur son comportement.
Non.
Et ça, c'est génial.
Et c'est la recherche de la libido, la recherche ouais. du plaisir, et c'est la sienne, et elle veut être égalité.
Et pour conclure, ce film noir, stylisé,
elle est dure quand même,
vénéneux,
hein.
Ouais. Mmh. Et ce couple de femmes qui va renverser le principe de domination dans le monde très macho des gangsters. Violetta, maîtresse d'un truand, va se prendre de passion pour Corky, en liberté provisoire après 5 ans de prison, et qui repeint l'appartement des voisins, mais ensemble, elles vont tenter de gagner le magot que le mafieux cache.
Et elles ne font pas que repeindre l'appartement.
Non, et extrait au lit.
The redistribution of wealth.
La redistribution des biens.
Excuse me.
De quoi tu parles?
It's what you want to know, isn't it? What I did time for.
C'est ce que tu voulais savoir, non? Pourquoi j'étais en prison?
The redistribution of wealth. Yeah, that's what I tell someone when I'm trying to get him in my bed.
C'est ce que je dis quand je veux mettre quelqu'un dans mon lit.
But I'm already in your bed.
Mais je suis déjà dans ton lit.
My cellmate would say she did her time for getting caught.
Mes camarades de cellule disaient qu'elle était en taule parce qu'elle s'était fait piquer.
She was always a lot more honest than me.
Elle était bien plus honnête que moi.
You didn't have to tell me if you didn't want to.
Rien ne t'obligeait à me le dire si tu voulais pas.
I guess I wanted to.
Oui, mais je voulais te le dire.
Et j'ai pas dit du film, c'est Bande, Lily et Lana
Wachowski.
Des sœurs Wachowski.
À nouveau les voix, À nouveau les voix, de la voix totalement...
Jennifer Tilly et Gina Gershon. En fait, ce qui est beau, je trouve que c'est la vérité de leurs sentiments dans une histoire de manipulation.
Absolument.
Hein,
absolument. Disons qu'on sort totalement du fétichisme, là, parce qu'il y a une... on a ressenti la même chose, j'allais attaquer là-dessus moi aussi, sur... c'est une histoire d'amour qui a une espèce de naïveté, de candeur, oui. de puissance, en fait, oui. de tellurique, hein, originelle, d'une histoire d'amour qui doit se faire. Il se trouve que c'est entre deux femmes, et il se trouve que c'est dans un milieu mafieux. Mais voilà, c'est le début d'un film romantique. Et il y a cette voix, donc pour moi, Jennifer Tilly, qui est quand même... je crois que c'est la grande sœur de Meg Tilly, qui était dans The Big Chill.
Exactement.
Une tourvelle exceptionnelle chez Forman. Oui. Ce sont deux sœurs qui ont mis, entre la qualité de leur peau, de leur voix aussi exceptionnelle, je sais pas. Cette voix, en fait, elle m'est restée très, très, très longtemps dans le cœur. Et je crois que par ailleurs, elle est aussi joueuse de poker professionnelle.
Ouais.
Mais Jennifer Tilly, ah, ouais. Personnage intéressant. Elle a une carrière intéressante.
Et vous savez qu'au cinéaste, on leur avait imposé un couple hétéro et avec plus d'argent. Oui.
Bah, tiens.
Et c'est eux qui ont tenu, bien sûr, à la plus grande originalité de ce film. C'est un couple d'un couple.
Je pense que là, les sœurs Wachowski, en plus, indépendamment du fait que, bon, évidemment, l'histoire d'amour est très puissante, mais la mise en scène, la précision de la mise en scène des sœurs Wachowski dans Bonne vaut vraiment le détour. Et c'est l'un de leurs meilleurs films d'un point de vue vraiment formel aussi. Ouais. Un mot sur Gina Gershon qui la même année était dans Showgirl, je crois. C'est vraiment.
Oui, j'étais étonné que vous ne choisissiez pas ce film qui est génial, de Paul Verhoeven.
Attendez.
Quelle version
cette
moderne.
Émission s'est bien déroulée. Je ne veux pas terminer en faisant des ennemis sur Showgirl. J'en pense plein de choses.
Quelle version moderne de Eve de Mankiewicz, mais bon, qui est un film absolument génial. On revient sur. Vous aimez pas?
Ah là là, voyez, ouais, vous voulez.
Ah mon Dieu.
Bah, évidemment. Enfin, c'est important pour moi. Après, je trouve que c'est un AV.
Non, on va revenir.
Ah,
donc.
Mais j'adore le film.
Je la connaissais bien, bon. La collectionneuse, Diabolomante, Simone Barbet sous la vertu, Un couteau dans le cœur, Our Christmas, The Last Seduction, Bun, c'était le choix de Rebecca Zlotowski. On se retrouve après Dua Lipa et Angèle, Fever.
Before you came around, I was doing just fine. Usually, I don't pay no mind. And when it came down, I was looking in your eyes. Suddenly, I could feel it inside. I've got a fever, so can you check? Hand on my forehead, kiss my neck. And when you touch me, baby, I turn red. Peut-être qu'avec du temps, ça partira. Et pourtant, je ne m'y vois pas. Comme un médicament, moi je suis rien sans toi. Et je sais que je perds de temps en temps tes bras. Car dans mes yeux, ça se voit. La fièvre dans les yeux, oui, ça se voit. Mon cœur se serre, j'ai du feu dans la voix. Le plus souvent, c'est quand je pense à toi. I've got a fever, can you check? Hand on my forehead, kiss my neck. And when you touch me, baby, I turn red. I've got a fever, so can you check? Tell me what you wanna do right now.
On parle encore de Showgirls, donc on va s'arrêter, n'est-ce pas? Vous écrivez à Rebecca Zlotowski si vous voulez savoir son avis et le mien n'a aucun intérêt. Alors, Laurent, on va parler du cinéma sans les salles de cinéma.
Hélas.
Et notamment le cinéma de Michael Cimino, c'est un livre.
Absolument, de Gianpiero Frasca chez Grémez, le bel éditeur italien, c'est évidemment une traduction. Alors Cimino, faut-il le rappeler, Voyage au bout de la nuit, les portes...
Au bout de l'enfer.
De l'enfer, je le raconte. La porte, je confonds avec Céline maintenant, la porte du paradis, c'est pas si loin. Le canardeur, l'année du dragon et quelques autres, très peu. C'est un bel ensemble film par film, donc très classique dans l'approche, mais très analytique et ça va très loin, avec cette définition en quelque sorte de l'auteur qui dit on ne peut pas défier Hollywood, surtout lorsque le soin maniaque pour les détails et le perfectionnisme obsessif frôle la paranoïa. Voilà une belle définition, effectivement, du cinéma de Cimino, dont le moins qu'on puisse dire est qu'il ne saurait laisser indifférent, mais que cette carrière, cette espèce de météorite dans le ciel hollywoodien a laissé de très belles pépites et en même temps une sorte de goût d'inachevé, de questionnement permanent que ce livre met très très bien en avant. Je rappelle le cinéma de Michael Cimino par Monsieur Frasca aux éditions Grémez.
Je vais faire un peu d'autopromo, Laurent, parce que on avait consacré une émission à Cimino avec, oui. Avec Nicolas Saada et Christophe Gans qui disaient des choses passionnantes sur Cimino. Joe Hill de Bo Widerberg.
Joe Hill, on passe Renoir ? Oui, passons Renoir.
Non, non, on passe pas Renoir.
On passe
Renoir,
on peut plus tard. Joe Hill, donc on passe au DVD.
Oui, mais
au DVD, chez Malavida.
On fait un mélange, pardon.
C'est pas grave, c'est très bien. Chez Malavida, DVD.
N'importe quoi sur le plateau. C'est là.
Mais non, mais c'est ça.
Elle prend des notes.
Numéro de Noël. C'est un numéro de Noël.
Oui.
Joe Hill, de Bo Widerberg, le Suédois, prix du jury à Cannes en 1971.
Amour 65,
c'est pardon
lui. Amour 65, c'est lui.
Oui, absolument, le péché suédois.
Magnifique.
Mais bien sûr, deux frères suédois débarquent à New York en 1902. Ils vont tailler la route vers l'ouest dans un road movie qui leur permettra de faire en quelque sorte naître le syndicalisme aux États-Unis. C'est plein de luttes sociales, de douleurs évidemment, d'immigration, de pauvreté et d'enthousiasme sur effectivement le fait syndical en quelque sorte. Alors le DVD est un beau reflet du film. Il y a un documentaire évidemment en plus dans les bonus. Il y a un livret, la version est restaurée et Malavida une fois de plus fait une belle œuvre d'éditeur autour de ce film qui a vécu 40 années quasiment de purgatoire. Sa ressortie ou sa sortie dans ce DVD mérite amplement le détour. Découvrez ce Joe Hill s'il vous plaît chez Malavida.
C'est à moi de parler d'un livre qu'on va vous offrir, Rebecca Zotowski, sur Depardieu, qui s'appelle Depardieu hors norme. Signé Laurent Delmas. Préface Bertrand Tavernier chez Larousse.
Signé
de Laurent Delmas. Incroyable. De ses premiers pas à son dernier film Des Hommes de Lucas Bellevaux, pas encore sorti, dans lequel, écrivez-vous, Laurent, l'acteur, supporte sur ses épaules de géant tout le poids d'un passé français qui ne passe pas, celui de la guerre d'Algérie, avec ses zones d'ombre et ses éclats brillants. 200 films chapitrés, Blier, l'Italie, Deneuve, Les Grands Hommes, Godard, les États-Unis, Truffaut, Duras, Berry et tant d'autres. Alors, il y a des merveilleuses phrases, notamment de Blier qui dit « Il est la plus grande stupéfaction de ma vie ». Truffaut dit avec lui « Il n'y a plus à avoir peur de choquer les spectateurs masculins parce que l'homme est plus faible que la femme, il le fait parfaitement accepter ». Son côté enfantin revient énormément aussi. Cette phrase d'Ardan, la seule planète avec laquelle je suis en alignement permanent, c'est Gérard. Et enfin, cette phrase de Godard qui ne dit rien comme tout le monde. Ce n'est pas facile de diriger un ours, même s'il est aimable. Delon est un truand, il a une parole. Depardieu est un honnête homme, il n'en a pas. Voilà, c'est ce livre donc. Depardieu hors norme, chez Larousse, de Laurent Delmas.
Merci.
Voilà, c'est dit.
Merci.
Un autre livre, Laurent, un livre donc notamment donc sur Renoir.
Jean Renoir, le premier, bizarrement, dictionnaire, Jean Renoir, par Philippe De Vita, il était peut-être temps, chez Honoré Champion, mais avec un sous-titre du cinéaste à l'écrivain, parce que l'auteur se fonde beaucoup sur la correspondance, et souvent inédite, de Renoir, et ça en devient très passionnant, ce Renoir qui, d'ailleurs, voulait aussi, non pas devenir, mais être un écrivain. Alors ça va de A comme acteur à Z comme Zanuck, à qui, d'ailleurs, à Hollywood, il écrivait ceci. J'aurais dû mieux vous dire que je ne suis pas exactement un directeur de film. Je suis plutôt un raconteur d'histoire qui a préféré employer la caméra que le porte-plume. Fin de citation. Et puis, je ne résiste pas au plaisir de vous donner cet extrait de la correspondance d'une lettre que Truffaut lui adresse en 1960. Avec les cahiers du cinéma, nous avons tous un côté curé pleurnichard. Car sidéré par l'écart entre nos idées de cinéphiles et nos découvertes de cinéastes, nous n'osons plus, Godard, Rivette, Doniol et moi, écrire une ligne. Et cependant, grâce à l'énorme littérature journalistique sur la nouvelle vague, la revue ne s'est jamais aussi bien vendue. Voilà, c'était une citation de François Truffaut à propos donc de Renoir dans ce dictionnaire Renoir par Philippe De Vita aux éditions Honoré Champion.
Alors on retourne au DVD avec un... Je dis pas un vieux film parce qu'il n'y a pas de vieux film.
Il n'y a pas de vieux film, absolument pas.
Il y a des films. Cécile est morte, Maurice Tourneur.
Oui, j'adore, film de 1944 dans la Continentale d'après, effectivement, sinon c'est certainement pas le meilleur Maigret parce que il est joué par Albert Préjean et par rapport à Gabin, c'est pas grand chose mais en même temps, il y a un vrai climat, il y a un acteur en second rôle qui s'appelle Jean Brochard qui fait absolument et toujours ma joie. C'est une très belle adaptation quand même de Simenon. Vous savez que Simenon c'est l'auteur qui décidément reste l'auteur le plus adapté au cinéma en France, mais pas seulement. Donc, il faut toujours voir et revoir ce Cécile est morte de Tourneur, je le disais, avec un bonus signé Christine Leteux, qui est une spécialiste et de Tourneur et de la Continentale et qui nous raconte fort bien l'histoire de ce beau film, malgré tout, de ce nouvel épisode des aventures du commissaire Maigret au cinéma. À suivre Depardieu bientôt avec Patrice Lecomte jouant le commissaire Maigret.
Avant d'offrir un autre cadeau à Rebecca Zotowski, je voulais juste dire que Le Festival européen des Arcs, 12e édition, pas de télésiège non plus pour les festivaliers. Une édition virtuelle qui démarre aujourd'hui jusqu'au 19 décembre au programme. 10 films en compétition européenne, donc pour La Flèche de Cristal. Jury présidé par Zabou Breitman avec Vincent Macken, Sophie Le Tourneur, Nicolas Maury. Rencontre entre professionnels, distributeurs, exploitants, invités d'honneur. Jérémy Régnier et le duo Nakache Toledano. Les Arcs, film européen. Le cadeau, Laurent.
Le cadeau. Nous avons beaucoup parlé de femmes et de filles pendant une heure. Je vais vous donner un autre éclairage.
Désolé pour l'interruption.
Mais non, mais ça, simplement, je fais un peu contrepoids. Ouais. L'homme qui voulut être roi de John Huston, dans un incroyable coffret édité par Wildside, avec deux hommes qui sont juste Sean Connery et Michael Caine, et un troisième Christopher Plummer. C'est une édition incroyable. Il y a un Blu-ray, il y a un DVD, bien sûr. Il y a un magnifique bouquin écrit par Samuel Blumenfeld, je dis magnifique sur le fond et sur la forme, ce qu'il raconte est évidemment très intelligent, ça s'appelle « La matière
Quel
dont les restes sont
le
faits »
toujours Samuel Blumenfeld.
De l'Inde à Marrakech, absolument, et puis évidemment il y a quelques bonus, documentaires, etc. Alors, il faut savoir que c'est un film auquel Huston a pensé pendant 25 ans, ce qui fait qu'il a essayé tous les castings possibles durant ses 25 années à Hollywood, donc on arrive à Sean Connery, Michael Caine, mais avant il y a eu Gable Bogart, puis Douglas Lancaster, puis O'Toole Burton et puis Newman Redford. Moi, je trouve ça formidable d'avoir essayé comme ça pendant 25 ans de monter un film et d'avoir en quelque sorte fait les plus beaux duos masculins, au moins dans sa tête. Le film est tout ce qu'aime et tout ce qu'on aime chez Huston, l'exotisme, la fraternité, l'ambition évidemment et l'échec, et puis l'ironie de Huston sur les colons et les colonisés, les monothéistes et les autres, les civilisations perdues, un trésor inaccessible bien évidemment. C'est un merveilleux film d'aventure avec tout le second degré qu'il faut. J'espère que vous partagerez notre enthousiasme à propos de ce Huston-là.
Merci beaucoup. Le coffret pèse 4,5 kg.
Hein, oui,
c'est juste à savoir.
On vous donne envie d'aller, on vous donne envie de Merci voir beaucoup. Des films, mais aller au cinéma, c'est autre chose. Et c'est toujours pas permis. Voilà. Jusqu'au début janvier.
Hélas.
Merci beaucoup, Rebecca Zotowski.
Merci. Merci
et
vraiment.
Et ce sera un générique féminin avec vous, avec votre belle voix. Au revoir.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma. Il y a des réalisateurs et des acteurs. Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs. Les prises de vue sont des prises de son. Georges Delerue a écrit les musiques du générique. Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez. Christophe Magère s'est occupé de la préparation. C'est une émission réalisée par Laurent Thomas et Claire Destacan. Elle est produite et présentée par Chris Mass et Laurent Delmas. Et moi, Rebecca Zlotowski, j'y étais.